France Inter.
Aujourd'hui dans l'affaire sensible, la chute du prince Andrew. Jeudi dernier, 19 février 2026, à 8h du matin, 6 véhicules de police débarquent à Sandringham, au nord de Londres. Ils sont venus arrêter l'ex-prince Andrew dans le cadre des enquêtes liées à l'affaire Epstein. Déjà en octobre 2025, Buckingham l'avait déchu de ses titres royaux, bref, viré. Une première dans l'histoire de la monarchie britannique. En cause, son mode de vie dispendieux, ses relations douteuses avec des fils de dictateurs ou d'autocrates. Mais surtout, ses liens avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. D'autant qu'au même moment, une femme accuse Andrew d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était mineure et elle emporte la preuve. Vulgaire, flambeur, imbu de lui-même et de sa condition princière, comment celui qu'on nommait le fils préféré de la reine s'est-il à ce point fourvoyé jusqu'à être banni de la royauté ? C'est l'histoire de la honte d'une famille royale la plus célèbre et la plus scrutée au monde. Notre invité aujourd'hui, Jérôme Caron. Il est grand reporter pour le magazine Point de Vue. Il suit l'affaire depuis plusieurs mois. Affaire sensible, une émission de France Inter. Récit documentaire, Sophie Bobert. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaire sensible. Sur France Inter.
Dimanche 4 janvier 2015, château de Sandringham. Les cloches sonnent la fin de la messe, la bruine tombe sur les graviers, nous sommes en Angleterre, et soudain, les reporters s'agitent. Chaque année, c'est le même rituel. Tous attendent que la reine Elisabeth II sorte de la petite église et s'avance vers eux. C'est ce qu'on appelle le triomphe de la tradition. Mais ce matin-là, la reine arbore un visage particulièrement grave. À nouveau, l'un de ses fils est mal conduit, et c'est elle qui doit restaurer l'honneur de la monarchie. Mais comment faire pour calmer les médias quand l'adage demeure « Never explain, never complain », ne jamais se justifier, ne jamais se plaindre. Explication avec l'historienne Laure Murat dans son livre Proust, roman familial.
Ce que cette scène disait, c'était la puissance muette du code. Ce temps long de l'histoire qui trace, enregistre, accumule un savoir immémorial sur l'art de la performance sociale. Aucun rouage ne doit se voir. Tout se joue entre les lignes où tout effort doit être radié, toute passion dissimulée, toute souffrance tue. On ne parle jamais de soi, on ne fait pas de vagues. On évite les sujets qui fâchent car c'est assommant et il est impensable de montrer quelque émotion en public. « On ne pleure pas comme une domestique », répétait mon arrière-grand-mère.
Non, on ne pleure pas comme une domestique. Et pourtant, il va falloir s'expliquer. C'est-à-dire qu'il va falloir liquider cette rumeur déshonorante qui éclabousse Andrew. Le fils préféré de la reine serait un pédocriminel. Comment ça ? Lui, le chouchou, c'est impossible. Alors, Elisabeth avance au milieu des photographes, marmoréenne, comme d'habitude. Pourtant, en ce début d'année 2015, tout serait si parfait sans ces accusations indignes. D'autant que son règne traverse alors une popularité remarquable. Ici, un Britannique explique les raisons de cette ferveur au micro de France 3.
Je suis un vrai monarchiste.
Pourquoi est-ce si important la monarchie ?
C'est une part de notre patrimoine, une part de notre histoire. Cela permet au pays de rester uni.
Et tous, bien sûr, portent un toast en chantant « God save the Queen ». S'il fallait reprendre le fil de ces dernières années, il y eut le succès de son jubilé de diamants, le mariage réussi de son petit-fils, William, avec Kate Middleton, la naissance du petit George, que de réjouissance. Et la relève est désormais assurée. William est un garçon irréprochable, bien corseté comme il faut, Avec lui, la monarchie peut dormir sur ses deux oreilles. Mais croit-il lui aussi à cette histoire de trafic de jeunes filles attribuée à son oncle ? Assaillie par l'angoisse, la reine monte dans sa voiture et disparaît sous les crépitements des photographes. Ah, vraiment, ces tabloïds sont insatiables. Cela fait 4 ans qu'il nourrit cette affaire, et elle est à bout de nerfs, sa majesté. Vous dites Andrew un prédateur sexuel ? Lui qui, enfant, rendait sa mère si fière. Elle l'avait dit à sa naissance. Je ne voudrais pas que cet enfant connaisse les soucis de la couronne. J'aimerais qu'il soit tout simplement heureux.
Les cœurs britanniques sont contents depuis la publication de cette image familiale prise au château de Balmoral. C'était en effet la première fois qu'il leur était donné de pouvoir admirer à satiété le dernier né de la famille royale, le petit prince Andrew, maintenant âgé de 7 mois. L'Angleterre peut être satisfaite, Andrew est un beau bébé.
Avant-dernier rejeton de la famille royale, Andrew voit le jour en 1960 à Buckingham. Il est le deuxième fils, et très logiquement, le deuxième dans l'ordre de succession dynastique. Nombre de commentateurs royaux l'assurent, c'est ce rôle de suppléant qui lui donne l'air si décontracté, si sympathique. Durant l'année 82, excellent, excellent cru pour lui. Il a alors 22 ans et se distingue en pleine guerre des Malouines lorsqu'il demande à servir en tant que pilote dans la Navy. Aux manettes de son hélicoptère The Sea King, le voilà qui traque les sous-marins argentins lorsqu'il ne sauve pas ses camarades des eaux glacées de l'Atlantique. Une attitude qui lui vaut une bonne dose de prestige dans le cœur des Britanniques. Mais à son retour, son attitude s'avère plus dilettante. Fêtard et indiscipliné, il gagne vite le surnom de Randy Andy, autrement dit Andy le chaud lapin. S'ensuit l'épisode de la jeune Cou Stark, une actrice de films érotiques qui navigue en douce à Buckingham. L'image du héros s'estompe au profit du playboy qui vit aux frais du contribuable. Mais sa mère lui pardonne tout. Que voulez-vous, son sourire candide, il a le don de la désarmer. Résultat, le jeune homme n'a aucune limite. En 1986, il fait toutefois un effort pour rentrer dans le rang. Il épouse une jeune femme aussi détonnante que lui, Sarah Ferguson. Elle est rousse, dynamique, et leur union fait l'unanimité dans le cœur des Britanniques, comme l'explique la journaliste Hilary Osborne sur Antenne 2.
Le monde a beaucoup plus d'enthousiasme maintenant pour ce mariage, même que pour le mariage du prince de Galles. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que Andrew est un héros jeune, il est un caractère assez libéré, alors il a capturé l'imagination de la... des Britanniques, des gens ici. C'est curieux, mais...
C'est un personnage sympathique, enfin, à la fois militaire, connu pour avoir eu une vie agitée, mais très sympathique.
Presque un James Bond. C'est un héros qui fait tout. Donc, il est presque du peuple. Il est de la famille royale, mais quand même, en même temps, on sent qu'il est un de nous.
En somme, Andrew et Sarah sont chargés de tous les fantasmes. Il faut dire que leur couple vient rompre l'image cabossée du couple Charles et Diana, qui ne parviennent plus à cacher leur échec conjugal. Voilà pourquoi, le 23 juillet 86, le Commonwealth entier vibre devant le mariage de Sarah et Andrew.
100 000 londoniens dans les rues et 500 millions de téléspectateurs pour contempler les faces du mariage de Sarah et Andrew. Pas moins de 32 pays ont en effet retransmis en direct aujourd'hui les noces princières. 2000 invités de marque pour assister à l'échange solennel des anneaux dans l'abbaye de Westminster. Au balcon de Buckingham Palace, à la demande de la foule, les nouveaux époux ont échangé un ducal baiser. En effet, quelques heures auparavant, le prince Andrew avait reçu le titre de duc de York. Il avait appris également que son allocation annuelle allait être portée de 20 000 à 50 000 livres. De quoi partir, serein, pour une lune de miel aux Açores.
D'autant qu'à son retour, le couple est logé au Royal Lodge, sur le terrain de chasse privé des Windsor, où passe une rivière et parfois quelques serres. Le couple donne naissance à 2 filles, les princesses Béatrice et Eugénie. Un conte de fées, à première vue, oui, excellent pour les tabloïds qui raffolent de la chronique de cette monarchie à la fois d'opérette et de pouvoir. Car durant leur première année de mariage, Sarah ne croise Andrew que 40 jours, c'est bien peu. Mais le jeune homme passe son temps en mer ou sur les terrains de golf, lorsqu'il ne fait pas la bringue aux quatre coins du monde. En mars 92, soit 6 ans seulement après leur noce, le couple se sépare. Quelques mois plus tard, un tabloïd publie les photos de Sarah se faisant sucer les doigts de pied par son amant au bord d'une piscine du sud de la France. Scandale! Pourtant, l'image n'a rien de pornographique, mais Sang Royal ne saurait tolérer telle attitude. Dans cette histoire, Andrew décide de prendre la défense de son ex-femme. Confession de celle-ci dans Paris Match.
Depuis que nous sommes séparés, nous n'avons jamais été aussi proches. Vous savez, j'ai eu beaucoup de chance en épousant Andrew, et j'ai beaucoup appris avec lui. En fait, il est mon meilleur ami. Je lui ai toujours tout raconté. Et quand j'ai connu des moments difficiles, il m'a toujours remonté le moral. Et bien qu'actuellement, nous soyons en instance de divorce, nous allons tout de même passer le week-end de Pâques ensemble. Les enfants feront du poney, puis nous irons au cinéma.
Alors, est-ce durant cette période qu'elle lui présente sa nouvelle amie, Ghislaine Maxwell ? Avec ses yeux malicieux et son carnet d'adresses bien rempli, cette fille a papa de l'allure. Mais elle inquiète également. Son ancienne amie, Victoria Hervey, déclare « Sur l'échelle des requins, Ghislaine aurait été un grand requin blanc. » Un requin blanc, mais très malheureux, puisqu'elle vient de perdre son père, le magnat de la presse, Robert Maxwell. Il est mort dans des conditions troubles, sur son yacht nommé le Lady Ghislaine. Et depuis, elle est inconsolable. C'est alors que le financier américain Jeffrey Epstein entre en piste. Ambitieux, physique, avenant, immensément riche, une fortune estimée à 500 millions de dollars, le bonhomme a des atouts. On le dit mystérieux, en vérité c'est un taiseux qui cache de grandes pathologies. L'une d'elles concerne les filles, qu'il consomme à haute dose, des filles fragiles et de préférence mineures, comme l'explique Laurence Haïm dans son livre « Ghislaine Marshall, une femme amoureuse », ouvrage publié en 2022.
Les victimes, des filles fragiles comme Jane, 14 ans, dont le père est mort, ou Kate, 12 ans, qui prend déjà de la cocaïne pour oublier la pauvreté, ou encore Caroline, 14 ans, contrainte d'habiter avec sa mère alcoolique. On parle en tout de plus de 500 victimes, ce qui fait de lui un des prédateurs sexuels les plus prolifiques de l'histoire.
Manipulation, menace, tout y passe, sans que personne ne s'émeuve. Certes, on trouve parfois étrange de croiser tant de filles chez lui. D'où viennent-elles ? N'ont-elles pas cours aujourd'hui ? Et pourquoi ont-elles toutes le même profil ? Blondes, non piercées et non tatouées ? Oh, et après tout, à quoi bon juger ? L'homme est si puissant. Et il a tant d'amis respectables. Des businessmen, des professeurs de Harvard, des ministres. Tous défilent dans son hôtel particulier de l'Upper East Side, quartier très chic de New York. L'âge d'or de cette période s'insère-pile entre les crises boursières de 1987 et de 2008. Epstein est alors un nom qui claque. Et puis il y a Ghislaine, toujours à ses côtés, qui reçoit de façon si fluide. Alors, tout se laisse happer, à l'instar du prince Andrew, qui trouve ses soirées épatantes. C'est tellement fun, tellement décomplexé en un mot, tellement américain. Nous sommes au seuil de l'an 2000, et les derniers temps ont été rudes pour les Britanniques. La mort de Lady Di a provoqué une déflagration dans le pays. Et puis voilà qu'Andrew frise la quarantaine, qu'il s'empâte, qu'il s'en les dit même, et qu'il s'ennuie. C'est donc sans surprise qu'il quitte la Navy. Sa mère l'impose alors comme représentant spécial pour le commerce extérieur et l'investissement. Ça sonne bien. Cornaqué par le Foreign Office, le voilà qui fait le job en promouvant le Made in Britain. Mais ce sont surtout les tournois de golf, les amitiés véreuses et les soirées mondaines qui l'excitent. Et celle d'Epstein en particulier. C'est bien simple. Ce type le fascine. Combien de soirées passent-ils ensemble ? Beaucoup. D'autant qu'il commence à fréquenter un certain Sir Evelyn de Rothschild. L'homme est un pilier de la City au point d'être devenu le conseiller financier de la reine. Pour en savoir plus sur ce petit monde d'opulence, il faut écouter les confessions de Ghislaine lors des 9 heures d'entretien rendues publiques en 2025 par la justice américaine.
Ce n'est pas moi qui ai présenté Jeffrey au prince Andrew ou à Sarah Ferguson. L'entremetteuse était la femme d'affaires Lynn Forrester, qui allait épouser le financier Evelyn de Rothschild. Mais elle était aussi une cliente de Jeffrey. Je pense qu'elle a même essayé de sortir avec lui. Cependant, je crois qu'avant cet événement, Jeffrey était allé aux Bahamas avec Sarah. C'est donc surtout la faute de Sarah. C'est elle qui a insisté pour que cette rencontre entre Jeffrey et Andrew se fasse. Je le sais parce que cela m'avait agacée. Je me sentais exclue. J'avais peur que Sarah tente de séduire Jeffrey. Je ne sais pas si elle m'aimait beaucoup. En fait, je pense qu'elle aimait surtout Jeffrey.
Quel imbroglio, un vrai panier de crabes. Pourtant, ils deviennent de plus en plus intimes. D'après l'ex-chef de la sécurité de Windsor, on laissait Ghislaine aller et venir au palais comme un membre à part entière de la famille royale. On avait juste pour consigne de ne pas noter son nom dans le registre des visiteurs. Buckingham, palais des faux-semblants. Un soir de février 2000, c'est chez Donald Trump qu'il se retrouve, à Mar-a-Lago. Une photo les montre ensemble, bronzés, tout sourire. À la droite d'Andrew, Melania Trump, au bras de Bichtine, une jolie blonde. Quelques jours plus tard, rendez-vous est pris au château de Balmoral pour fêter les 40 ans d'Andrew. Puis en juin, au Royal Ascot, la prestigieuse course de chevaux du domaine d'Ascot. Là où réside Sir Evelyn de Rothschild, le fiancé de Lynn Forrester. La boucle est bouclée. Fondé en 1711, ce concours hippique est le rendez-vous préféré de la reine. Un vrai ticket d'entrée pour Epstein. Sous les yeux de la High Society, le voilà qui para dans le costume trois pièces et chapeau haute forme. Tout près de lui, Ghislaine, sous sa capine verte, décroche un sourire béat. Vide. 9 mois plus tard, tout se retrouve à nouveau. À Londres cette fois, et à leur côté, une jeune fille de 17 ans qui va renverser la table et le cours de l'histoire. Son prénom, Virginia. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la chute du prince Andrew.
Affaires Sensibles,
Fabrice Drouel.
Belgravia est un quartier délicieux. Mary Shelley y a vécu, ainsi que Ian Fleming, le créateur de James Bond. On y longe des ambassades, on assiste à des concerts de musique classique, puis on se rend au Library Bar pour savourer des vins millésimés entre gens civilisés. Mais parfois on fait autrement. Le 10 mars 2001, le Prince Andrew frappe au 44 Kinnerton Street, le domicile de Guylaine Marshall, situé au cœur de Belgravia. La façade est blanche, plutôt banale. Mais le sait-il ? Guylaine et Jeffrey lui réservent une surprise. Une jolie blonde qui est là pour passer la soirée en leur compagnie. Elle se nomme Virginia. La suite, c'est elle qui la raconte dans le documentaire Jeffrey Epstein, Pouvoir, Argent et Perversion, produit par Netflix.
On frappe à la porte d'entrée, il entre et on prend le thé tous les trois. Guylaine posait toujours les mêmes questions. C'était comme un jeu. Elle demande au prince Andrew quel âge il me donnerait. Il répond 17 ans. Et elle lui dit « Oh, bravo, elle a bien 17 ans ». Et ils en rigolent. Et il ajoute « Ma fille a presque le même âge. Elle est un peu plus jeune que toi ». Le soir, on sort dans un club de Londres, le Tramp. On danse ensemble et il transpire abondamment sur moi. C'est dégoûtant. On retourne chez Guylaine et on monte à l'étage. J'avais un petit appareil jetable jaune. Et je demande à Jeffrey de me prendre en photo avec le prince Andrew.
Une photo peut-elle à ce point changer la vie d'un homme ? Andrew ne le sait pas encore, mais il vient là de signer le premier acte de son bannissement. Car la photo en question est très nette. Au premier plan, apparaît Andrew en chemise blanche qui regarde l'objectif en souriant. Son bras enserre la taille de Virginia, vêtue d'un t-shirt qui laisse voir son nombril. Elle a l'air si contente. C'est elle qui a demandé à être prise en photo avec lui, car enfin, passer son samedi soir avec un prince, même s'il ne ressemble à rien, ça n'est pas rien. Elle voudrait en conserver le souvenir et montrer à sa mère que non, elle ne fout pas sa vie en l'air. Cette dernière était tellement réticente à la voir devenir masseuse. Elle lui disait « Qu'est-ce que ce couple peut bien faire d'une adolescente qui n'a ni recommandation ni compétence en massage thérapeutique, hein ?» Hélas, Virginia se ment elle-même et se persuade que ce job est la chance de sa vie. Certes, il faut satisfaire les caprices sexuels de Jeffrey, mais il y a tous ses voyages, tout ce fric, tout ce confort. Et puis Guylaine veille bien sur elle, d'ailleurs. On la voit derrière elle sur la photo. Elle aussi sourit à Jeffrey, tapis derrière l'objectif.
Guylaine est juste derrière moi. Et elle me dit... Tu sais, tu vas devoir lui faire ce que tu fais pour Jeffrey. Ça m'a fichu un coup. Et juste après cette photo, il m'a agressée sexuellement pour la première fois.
D'après Virginia, Andrew l'aurait donc agressée une première fois dans la salle de bain de Guylaine, puis, quelques mois plus tard, à New York, dans la bibliothèque de Jeffrey, et enfin sur l'île qu'il possède dans les Caraïbes. On y accède grâce à son jet privé surnommé le Lolita Express. Que de folie dans ce jet, et que de personnalité. Les registres du pilote mentionnent la tête couronnée saoudite Mohamed Ben Salman, Elon Musk, qu'on ne présente plus, tout comme Bill Clinton, et José María Aznar, l'ancien premier ministre espagnol. Mais Virginia se souvient surtout d'Andrew. De ce moment où, installé dans une paillote, Epstein lui a demandé de caresser une camarade avant de s'occuper du prince et de lui fournir un rapport détaillé. Pour mieux le faire chanter ? C'est possible. La rumeur dit qu'Epstein tenait des centaines de rapports dans ses carnets, de vrais compromates susceptibles de torpiller n'importe quelle vie. Or, Andrew ignore tout de ses carnets, comme il ignore, semble-t-il, la différence entre un rapport consenti et un rapport forcé. Mais comment imaginer le pire lorsqu'on est habitué à être choyé, protégé ? Et pourquoi cesser de voir ce fantastique Jeffrey ? D'ailleurs, un bal masqué se prépare à Windsor pour les 18 ans de sa fille Béatrice. Pourquoi ne pas l'inviter, ce Epstein ? Et à nouveau une photo est prise qui montre le prince dans un uniforme d'officier blanc, aux côtés de Guylaine sous un chapeau à plumes, et du producteur de cinéma Harvey Weinstein, celui par qui MeToo viendra. Nous sommes alors en 2006 et rien ne semble résister à cette engeance. Sauf que le coup théâtre surgit de Floride. Lorsqu'une adolescente a le courage de porter plainte, et il en faut, contre ces gens puissants qui se croient au-dessus des lois et de la morale. Et donc une enquête est ouverte. Nous sommes en 2008, et pour la première fois, Epstein trébuche. Il est emprisonné pour incitation de prostitution sur mineur. Une peine minime, puisqu'officiellement, on ne parle pas encore de trafic. Il est donc relâché 13 mois plus tard. Mais désormais, il sent le souffle, et nombre de ses amis commencent à s'éloigner. Tous, non, pas encore. Certains ont besoin de lui et de son carnet de chèques. C'est le cas d'Andrew, qui le 5 décembre 2010 se jette dans la gueule du loup. Il aimerait tant que Jeffrey l'aide à rembourser les dettes de Sarah. Le montant, 125 000 $. Mais il ne se méfie pas. Il ignore que des reporters du tabloïd News of the World le pistent. La suite, c'est le grand reporter Mark Seal qui la raconte dans Vanity Fair.
Au bout de la 71e rue, Andrew et Epstein prennent à droite vers Central Park. Et là, à 13h40, ce 5 décembre 2010, sur son promontoire de schiste noir, le photographe Jaden Ellie dégaine son objectif et attend. Au moment précis où le prince Andrew et Jeffrey Epstein passent en contrebas, ils se mettent à mitrailler. Quelques secondes pour le photographe et l'éternité pour les intéressés. Le dimanche 20 février 2011, News of the World publie le cliché compromettant agrémenté du titre « Le prince Andy et le pédophile », sous-titré « Que fricote le quatrième prétendant à la couronne avec un délinquant sexuel et pervers notoire, quand bien même il s'agit d'un milliardaire ?»
La question est posée et l'image fait le tour du monde. Elle parvient bientôt sous les yeux de Virginia. Réfugiée en Australie et désormais mère de famille, la jeune femme n'a rien oublié des abus qu'elle a subis. C'est à Sharon Churcher, du tabloïd Mail on Sunday, qu'elle va tout raconter. Les paroles, c'est bien, mais les preuves, c'est mieux. Alors, Virginia ressort la photo prise en 2001 à Belgravia. Et pour 160 000 $, elle accepte de la céder au journal. La journaliste sourit. Elle sait bien que cette photo va provoquer un tsunami, que les Britanniques vont comprendre que leur prince est lui-même un pédocriminel. Le cliché paraît le 27 février 2011 et comme prévu, il secoue sérieusement le Landerneau.
Aujourd'hui au Royaume-Uni, ce ne sont pas les noces royales qui font la une, mais les frasques du prince Andrew, fils cadet de sa majesté. Et ce n'est pas la première fois qu'il défraie la chronique. Aujourd'hui, c'est pour de mauvaises fréquentations, notamment avec ce milliardaire américain condamné pour prostitution de mineurs. Ces clichés du prince pourraient compromettre son rôle d'ambassadeur pour le commerce à l'étranger.
Je dirais que sa position est intenable. Il est devenu embarrassant pour la famille royale. Je pense qu'on devrait lui dire merci pour ce que vous avez fait pendant toutes ces années, d'avoir promu le commerce britannique, mais aujourd'hui, il doit démissionner, il doit partir.
Réaction de commentateur royal Robert Johnson. Il est coincé s'il ne dit rien et il est coincé s'il dit quelque chose. Mais je pense qu'il ne peut plus se cacher derrière son porte-parole et qu'il doit s'exprimer publiquement. À Buckingham, on se réserve la possibilité de poursuivre Virginia en diffamation. Mais force est de constater que l'affaire salit la couronne. Certes, la reine en a vu d'autres. Mais lorsqu'on ouvre une enquête judiciaire au Royaume-Uni, c'est en son nom. Et elle n'a pas le droit à l'erreur. Et puis il y a la découverte de toutes ces autres relations gênantes. Cette amitié avec Saif al-Islam Kadhafi, par exemple, l'un des fils du dictateur libyen. Sa relation avec le gendre corrompu du président tunisien Ben Ali. Avec Timur Kolibayev aussi, le gendre du président kazakh. Sans parler de ses notes de frais qui s'envolent et de son train de vie qui fait scandale. L'ancien ministre travailliste Chris Bryant déclare qu'Andrew est devenu une source d'embarras. Et si l'on en croit les commentaires des uns et des autres à Buckingham, on le qualifie d'idiot, de nigaud, de petite brute. Et puis il y a ces dizaines de nounours qu'il expose méticuleusement sur son lit à plus de 40 ans. Alors la reine lui demande de mettre fin à ses activités de représentant pour le commerce international. Vraiment pas crédible. Mais est-ce suffisant? Pas vraiment. Car déjà de nouvelles secousses arrivent. En juillet 2019, Epstein est arrêté à la descente de son avion. Encouragé par la vague MeToo, des dizaines de femmes se sont réunies pour porter plainte contre lui. L'époque a changé, et on ne plaisante plus avec ces choses-là, enfin. Alors, Que ressent Andrew en apprenant la nouvelle? Un pincement au cœur, sans doute. D'autant qu'un mois plus tard, Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule. Suicide, pas suicide, on suppute, on imagine, on s'exclame. Epstein est mort, mais son ombre bouge encore. Et l'étau se resserre autour d'Andrew. Deux mois plus tard, et afin d'en finir avec les rumeurs, il décide de s'expliquer en direct dans Newsnight, l'émission phare de la BBC. Nous sommes le 16 novembre 2019, et le pays entier est devant la télé pour assister à son naufrage. Une suite de mensonges qu'il professe de son ton doctoral. Les invitations d'Epstein à Sandringham, de simples week-ends de chasse. La promenade à Central Park, disons que c'était pour couper les ponts. Mais alors, cette photo prise avec Virginia à Belgravia, je n'ai aucun souvenir d'avoir rencontré cette femme. Cela ne s'est tout simplement jamais produit. Puis arrivent les justifications lunaires. Il n'était pas à Belgravia ce soir-là, car il accompagnait sa fille Béatrice dans une pizzeria. Et il s'en souvient, car ce genre de restaurant, c'est pas du tout son style. Tout juste bon pour les roturiers. Et puis comprenez qu'il n'a pas pu danser en transpirant sur cette Virginia. Il ne transpire plus depuis la guerre des Malouines. Oui, il a dit ça. De l'avis de tous, cette émission est un désastre. Et il est clair qu'on n'inscrira pas Andrew dans la liste des grandes intelligences de ce monde. Un idiot, comme le dit l'attaché de presse de Buckingham. Et dans la presse, le Mirror, le Washington Post, le Vanity Fair, tous qualifient cette intervention de crash en direct.
La polémique est montée d'un cran ce week-end après la diffusion par la BBC de cet entretien exclusif au cours duquel le prince Andrew a été vivement critiqué pour ne pas avoir pris suffisamment ses distances avec Jeffrey Epstein.
Regrettez-vous toute cette amitié avec Jeffrey Epstein ?
Non, toujours pas. Car les gens que j'ai rencontrés et les opportunités que j'ai eues d'apprendre grâce à lui ou à cause de lui m'ont été très utiles.
Et que dire du fait qu'il n'ait pas eu un mot pour les victimes ? De l'autre côté du globe, Virginia regarde l'interview. Elle aussi est effondrée. Elle déclare « Les puissants ne sont pas exemptés de rendre les comptes ». Et elle décide, elle aussi, de porter plainte. La suite arrive le 26 août 2021, sous les traits d'une convocation officielle du tribunal fédéral de Manhattan. Réaction de Buckingham, une gêne glacée. La reine s'approche de ses 95 ans et elle est fatiguée. Son fils préféré l'abîme. Voilà pourquoi Charles prend l'affaire en main et exige l'excommunication d'Andrew. De guerre lasse, Elisabeth s'incline. Alors, Andrew disparaît du balcon, de l'agenda royal et des photos officielles. Cancelled.
Le prince Andrew, accusé d'agression sexuelle, est déchu de ses titres militaires.
Absolument, le prince Andrew, des annonces qui interviennent au lendemain du refus de la justice américaine de classer la plainte au civil. Les explications à Londres avec notre correspondante Maëlys Septembre.
Le prince Andrew, déchu de ses titres militaires, c'est ce qu'a annoncé le palais de Buckingham hier. Avec l'accord de la reine, il ne sera plus non plus appelé Votre Altesse Royale. Enfin, il n'assumera plus de fonctions publiques, il ne représentera plus la famille royale, comme c'est déjà le cas depuis 2019. Cette annonce, elle intervient alors que mercredi, la justice américaine a refusé de classer la plainte de Virginia Giuffre à son encontre, une plainte pour agression sexuelle, des faits que le prince Andrew a toujours nié. Il devra donc se défendre lors de son procès civil aux États-Unis en tant que simple citoyen, ce sont les mots du palais de Buckingham.
Un procès qui mettrait le nom de la reine sur le banc des accusés ? Impensable. Alors, comment faire pour éviter le pire ? S'arranger, bien sûr, et envoyer quelques millions à Virginia pour qu'elle retire sa plainte. La rumeur dit que la reine aurait puisé dans sa cassette personnelle. Tout est bon pour oublier cette histoire abjecte. Mais le verre est dans le fruit, et le plus étincelant des diadèmes n'y peut rien. Chaque année apporte son lot de nouvelles sordides. Le 25 avril 2025, Virginia se suicide, tandis que ses mémoires paraissent en librairie. Son titre, Nobody's Girl, un livre qui s'est hissé d'emblée en tête des ventes au Royaume-Uni et dans lequel elle confirme qu'Andrew participait bien à des orgies avec de très jeunes filles. Et qu'il n'y avait pas que ça. Peu à peu, des mails sont exhumés qui prouvent qu'Andrew a bien menti lors de son interview à la BBC. Non, il n'était pas furieux contre Epstein. Et non, leur balade à Central Park n'était pas destinée à couper les ponts. Car enfin, que penser de ces mots écrits par Andrew à la suite de la publication de la photo de Belgravia ? Toi et moi, on est dans le même bateau, mais gardons le contact et nous pourrons à nouveau jouer très bientôt. Des mails envoyés tandis qu'Epstein était classé pédocriminel de niveau 3. Hélas, pour Andrew, la mère n'est plus là pour redorer son blason. Le trône appartient désormais à Charles. Le 30 octobre 2025, ce dernier le bannit et l'expulse du Royal Lodge où il vivait depuis 2003 avec son ex-épouse Sarah. Magnanime, il lui laisse tout de même le domaine de Sandringham, à 200 km au nord de Londres. Autant dire, en rase campagne, persona non grata. Pendant ce temps, et chaque jour, la presse égrène la liste de ses pertes, son manoir, son honneur, ses privilèges, ses titres de duc d'York, de chevalier grand-croix de l'ordre royal de Victoria, de comte d'Inverness, de baron Killilig. Il perd également son appartenance à l'ordre de la Jarretière, le plus prestigieux de la couronne, là où il aimait tant parader en chapeau orné de plumes d'autruche blanche. Créé par le roi Édouard III en pleine guerre de 100 ans, l'ordre a gardé sa devise « On y soit qui mal y pense », une devise qui signifie quelque chose comme « honte à celui qui trouverait à redire » ou encore « je ferai tout ce dont j'ai envie ». Synonyme « impunité ». Mais qui ne passe plus aujourd'hui, dans l'espoir que tout cela va changer. C'est un long chemin, mais désormais, il est balisé.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la chute du prince Andrew. London's Burning, effectivement. On en parle avec vous, Jérôme Caron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter pour le magazine Point de Vue. Vous êtes donc à la pointe des dernières nouvelles en provenance de Buckingham. Et c'est peu dire qu'en ce moment, il y en a beaucoup. Est-ce exact que cette histoire ravive la défiance envers la monarchie? Je vous dis ça parce qu'elle en a connu d'autres. L'abdication d'Édouard VIII, la mort de Lady Di, les tribulations de Harry, le prince Harry, elle en a connu beaucoup. Est-ce que là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase?
Alors, étonnamment, en fait, la cote de popularité du roi Charles a pris 4% depuis qu'il a expliqué que le palais de Buckingham soutiendrait toutes les enquêtes à l'encontre de son frère. Donc, en fait, cette réaction aussi médiatique que institutionnel, quelque part, pour préserver la machine, semble avoir plu aux Britanniques. En revanche, sur la jeune génération, il y a un défi qui est un petit peu plus grand, c'est-à-dire qu'il y a 30-35% des jeunes de 18 à 24 ans qui ne voient pas l'intérêt de la monarchie, sont un peu plus nombreux qu'ils l'étaient il y a 5-10 ans.
Parlons d'Andrew, qui est un numéro 2, en fait. Hein. Il n'a pas vocation à régner si Charles règne. Voilà, c'est le premier qui règne. Et on s'aperçoit quand même que les numéros 2, c'est difficile. Il y a la sœur d'Elisabeth, Margaret, qui a une vie difficile. Harry, vie tourmentée également. Andrew, pas mieux. Est-ce que ces fils et filles qui arrivent en deuxième vivent une position extrêmement difficile?
C'est ce qu'on appelle la malédiction des cadets.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que vous êtes derrière, vous avez une chance de régner potentielle jusqu'à ce que votre grand frère ou grande sœur ne se marie pas ou n'ait pas d'héritier, mais votre justification en dehors d'être dans la famille royale et d'être un membre de la famille royale, vous n'avez rien à y faire en dehors d'être juste là, en fait. Ouais. Donc ça laisse une espèce de tempérance, de légèreté, ils savent pas trop quoi faire de leurs 10 doigts. Donc, une fois qu'ils ont découpé suffisamment de chrysanthèmes ou accumulé un certain nombre de patronages, l'ennui arrive assez rapidement. Ils n'ont pas de destin. Andrew, lui, a trouvé la bonne formule, ou tout au moins sa Elisabeth II, avec l'appui de Peter Mandelson, qui est ancien ambassadeur des États-Unis et qui est aussi extrêmement lié à l'affaire Epstein, a obtenu ce job d'ambassadeur commercial, ce qui lui a permis de traverser le monde entier, de choisir les meilleurs golfs. En numéro 2, vous avez la liberté d'être ce que vous voulez dans un cadre extrêmement précis.
Contraint
et précis, donc c'est extrêmement délicat. Vous avez de l'argent, mais pas de pouvoir. Vous avez un nom, tout le monde vous a déférence, mais derrière, il n'y a rien. C'est assez vide. Donc c'est extrêmement compliqué pour eux de se positionner socialement. Et quand Andrew trouve quelqu'un qui lui donne de l'importance, ou qu'il semble de lui donner l'importance qu'a pu Epstein, ça marche, ça fonctionne. Mmh. Epstein s'est attaqué au numéro 2. Il a essayé de passer, d'atteindre le roi des Belges également, via Laurent de Belgique, qui lui a compris qu'il voulait juste atteindre ses parents, qui étaient le roi et la reine des Belges. Et avec Andrew, ça fonctionne, parce que vous parliez de bêtises, c'est assez le cas. C'était un garçon extrêmement insupportable, qui ont laissé libre cours de faire pas mal de choses. Sa mère, Elisabeth II, préférait que ce soit les majordomes qui le grondent plutôt qu'elle, parce que les affaires de famille, ça l'a toujours un peu dérangé. dérangé, elle a mis la poussière sous le tapis, on l'a vu avec l'histoire Diana. Et puis en grandissant, il s'est cru tout permis, une forme d'impunité. Je suis le second fils d'Elisabeth II, disait-il en permanence. Son titre de gloire, c'est les Malouines, il revient auréolé, il grimpe encore plus, son ego gonfle encore plus. Mais derrière, en dehors de ça, il n'a rien fait. Il passe 10 ans dans la marine en voyageant beaucoup, toujours fan de jeux vidéo. Il a un humour gras, de corps de garde. Andrew, c'est un, pardonnez-moi l'expression, c'est un gentil bourrin. Enfin, pas gentil en l'occurrence, mais c'est un bourrin. Quoi. Donc voilà, et ça fonctionne. Et surtout, un sentiment d'impunité totale, absolue, qui lui fait faire n'importe quoi et qui lui fait franchir des limites qui ne doivent pas être franchies.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Jérôme Caron, que penser de la parution du livre de l'historien Andrew Loney, historien de renom, hein, auteur de biographies respectées sur l'espion soviétique Guy Burgess, par exemple, ou sur Lord Mountbatten. D'ailleurs, Andrew s'appelle maintenant Andrew Mountbatten Winter, c'est ça. Oui. Après 4 ans d'enquête et 300 témoignages, son livre « The Rise and Fall of the House of Work », l'ascension et la chute de la maison d'York, est un réquisitoire cinglant, alors qu'il met au jour le profil cupide d'Andrew, d'après lui. Epstein le considérait comme un idiot utile. C'est quoi l'idiot utile en l'occurrence ?
L'idiot utile, c'est la personne qui ne sait pas vraiment qui sert de paravent. C'est-à-dire qu'Andrew était envoyé. Andrew avait des rapports assez efficaces avec les potentats de l'Est ou les fils ou les gendres de potentats de l'Est. Mmh. Et dans son sillage, il ramenait des informations à Epstein qui s'en servait pour, en fait, c'est du forme de délit d'initié ou ça s'apparente à ça. Si Andrew est arrêté aujourd'hui, c'est pour ce volet-là, c'est pour la transmission d'informations confidentielles. Lorsqu'il était représentant du commerce et de l'investissement de Grande-Bretagne à l'étranger, et il a reçu des comptes rendus officiels de ses visites qu'il a transmis dans les 5 minutes à Jeffrey Epstein. Donc c'est pour ce volet-là, le volet sexuel est réel avec Andrew, mais pour l'instant pas suffisamment enquêté ou pas assez instruit. Mais en revanche, là, la police britannique a décidé qu'il y avait matière à poursuite. Et donc Andrew connaissait du monde, s'est pris à un moment plusieurs fois pour un homme d'affaires. Il fantasmait de faire un espèce de fonds d'investissement entre le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe, dont il aurait été un peu le chapeauté ce business-là en levant des fonds à droite à gauche. Et Epstein, qui est dans la finance, qui est un matheux, qui est quelqu'un qui a su vraiment se servir de la dérégulation économique et appuyer sur la faille des gens, et notamment des gens qui cherchaient à investir, voit dans ce grand épouvantail princier, sans effet, mais en même temps, malgré tout, avec un carnet d'adresses assez large, vu sa position, une possibilité d'obtenir des informations pour de futurs investissements, de toute façon pour augmenter son réseau.
Alors, il y a aussi des confidences sur l'intime, toujours selon Loney. Epstein aurait vendu les secrets les plus intimes du prince à plusieurs agences de renseignement étrangères notoires, comme le Mossad, ou celle de l'Arabie Saoudite. On peut le croire, ou c'est une manosque? Là, c'est grave quand même. Hein.
C'est une théorie qui peut tenir debout quand on va un petit peu en arrière et quand on découvre que via Ghislaine Maxwell, qui était donc l'intermédiaire, ou tout au moins la face sociale d'Epstein à New York, le père de Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, que vous avez cité précédemment, grand magnat de la presse, a eu 6 chefs du renseignement à son enterrement en Israël. Et il aurait été notamment en contact, Robert Maxwell, donc avec Jeffrey Epstein, au moment de la chute du mur de Berlin, lorsque certains potentats russes qui avaient des actifs et des avoirs ont voulu les passer à l'ouest. Robert Maxwell, qui lui était tchécoslovaque au départ, a obtenu la nationalité britannique et avait du magnat donc de la presse et avait des contacts dans le monde entier, au MI6, semble-t-il, en Israël et également en Russie, aurait fait appel à Jeffrey Epstein pour l'aider à faire circuler cet argent, en fait, puisque Jeffrey Epstein était un optimisateur fiscal et il aidait à l'évasion fiscale, ça faisait aussi partie de ses talents, entre guillemets, entre très grosses guillemets. Et donc, on peut supposer que via cette connaissance-là, en fait, le prince Andrew, Jeffrey Epstein et toute cette affaire de business ont pu, voilà, l'argent a pu vraiment circuler, ouais. Et c'est pour ça qu'Epstein est resté en contact avec Andrew lorsqu'il était dans l'investissement. Le livre de Loney est très intéressant parce qu'il démontre aussi l'aspect financier extrêmement puissant. C'est quelqu'un de cupide, David, le prince Andrew. On vient de découvrir, il y a des déclarations qui ont été faites ce matin dans la presse britannique, comme quoi il faisait rembourser ses frais de massage lorsqu'il était envoyé spécial du commerce et de l'industrie à l'étranger. C'est une déclaration d'un ancien fonctionnaire du ministère du Foreign Office. Donc, c'est sans fin.
Alors, on dit aussi que la fortune du palais royal, de la famille royale, elle est entre les mains de la reine et personne d'autre. Et c'est elle qui décide, en gros, de l'argent de poche qu'elle donne à ses fils. Et que ses fils ne rouleraient pas sur l'or, auraient des problèmes d'argent.
Disons que les deux personnes dans la famille royale qui ont une vraie fortune, c'est le roi et son fils, le prince de Galles. Son fils, le prince de Galles, hérite du duché de Cornouailles à titre privé. C'est un ensemble gigantesque de propriétés. On ne peut pas se rendre compte en France. C'est vraiment domaines ancestraux qui se passent de génération en génération sur 1200 ans. Donc fatalement, à un moment, ça fait de la place. Il semblerait aujourd'hui que ce soit le roi Charles qui finance son frère Andrew, puisque ce dernier ne peut prétendre à l'heure actuelle qu'une retraite d'ancien militaire de la marine qui doit tourner, si ma mémoire est bonne, entre de 70 000 livres par an. Ce qui, vu le train de vie qu'il a, ou qu'il avait, n'était pas possible. Rappelons-nous, Royal Lodge, c'est au moins plus de 200 pièces, des majordomes constamment, etc. Donc, une fois qu'ils auront, s'ils arrivent à gérer, maintenant qu'ils ont exfiltré Andrew, l'autre problème que risque d'avoir la famille royale dans les prochaines années, c'est ce devoir de transparence par rapport à leurs finances. Ils n'ont pas l'habitude, ils n'en ont pas forcément envie. Mmh. Alors que Charles, quand il était héritier du trône, publiait les impôts qu'il payait, son fils William, lui, a décidé d'arrêter de donner cette information au public. Donc là, on est sur un autre futur un peu plus compliqué.
Alors, quand on voit la relation entre Andrew et Epstein, comme la relation d'Epstein avec beaucoup de têtes couronnées, de gens qui apparaissent comme importants, il y a une espèce de deal, c'est-à-dire que Epstein a besoin d'être entouré de gens qui ont du poids, et certaines personnes qui ont du poids ont besoin d'argent. Ce sera un petit peu le deal.
C'est de l'entre-soi qui profite à tout le monde. C'est-à-dire que Epstein agrandit son réseau, donc trouve de nouveaux investisseurs. Les nouveaux investisseurs trouvent via Epstein des associés. Les associés trouvent via les investisseurs de nouvelles manières d'avancer, d'augmenter des conglomérats. Tout le monde se rend service à tous les niveaux. Au niveau financier, au niveau fiscal, au niveau personnel, compagnon de débauche aussi. La force d'Epstein, par exemple, c'est d'avoir fait croire au patron de Victoria's Secret qu'il était le seul à pouvoir gérer son argent. Et donc, le patron de Victoria's Secret a viré son conseiller financier pour engager Epstein, parce qu'Epstein, quand vous avez énormément d'argent, votre angoisse, c'est pas forcément de plus en gagner, c'est de le perdre, puisque vous en avez déjà. Donc, Epstein arrivait à convaincre ces gens-là. Et donc, par sa force de conviction, une forme de pragmatisme et de charisme, et un carnet d'adresses qui n'a fait que s'amplifier, et puis il ne faisait que ça. On a remarqué dans les 3 millions de courriels dévoilés qu'il allait à la... c'était du phishing. Il espérait, on a pas Cédric Villani en France qui a fait un tour dans son appartement avenue Hoche et puis qui est parti. Il y en a d'autres aussi qui ont été approchés, ils n'ont pas pu aller plus loin.
Toute dernière chose, il y a eu plusieurs scandales au sein de la famille royale britannique. Là, il y a une affaire de sexualité, de sexe, de pédocriminalité. C'est une autre dimension quand même.
C'est une autre dimension, mais Andrew a été totalement débranché du système. Est-ce que ce sera suffisant pour éviter à la monarchie une énorme crise? Pas forcément, mais en tout cas à l'heure actuelle, il n'a plus de contact en dehors de contact financier avec sa famille, tout au moins officiellement. Maintenant, il a tellement d'affaires, il a des affaires financières, il a des affaires de délit d'initié, il a des affaires d'espionnage possible, qu'il y a de toute façon ou un autre où le temps judiciaire va le rattraper, et là ce sera une autre étape.
Merci infiniment Jérôme Caron, ce sera le dernier mot. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la chute du prince Andrew, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Alexis Barrois.